Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, le débat. Quelle politique la communauté internationale doit-elle privilégier à l'égard de l'Iran entre le dossier nucléaire et la flambée de violence que connaît le pays depuis 6 mois? Nous retrouvons nos invités, Azadeh Khian, professeur de sociologie politique à l'université Paris Diderot Paris 7 et chercheur au CNRS, auteur de La République islamique d'Iran aux éditions Michelon. Ardavan Amiraslani, avocat et auteur de Iran, le retour de la Perse aux éditions Jean Picolec. Et François Géré, directeur de l'Institut français d'analyse stratégique et auteur de Iran, l'état de crise, à paraître prochainement aux éditions Cartala. Azadeh Khian, on abordait dans la première partie de cette émission consacrée à l'Iran la question des scénarios possibles. Vous vouliez compléter ce que disait François Géré.
Oui, je pense que l'un des scénarios qui se dégage peut-être de plus en plus, et ça c'est très en rapport avec les exactions commises par les radicaux du régime, c'est le rapprochement entre Khamenei et Rafsanjani. C'est-à-dire que ces derniers jours, ce qu'on a constaté, c'est effectivement un juge qui est très important, qui s'appelle le juge Murtazavi, qui est reconnu par un rapport important du Parlement iranien comme responsable des exactions commises dans l'une des prisons à l'encontre des opposants. Et donc, je pense qu'il y a, et avec les propositions récentes aussi à la fois de Moussavi et de Karoubi également, les deux chefs de l'opposition, il me semble que finalement, on va vers la mise à l'écart des éléments les plus radicaux du régime au profit d'un consensus afin justement d'empêcher que le régime dans son ensemble soit contesté par les gens de la rue qui n'obéissent ni à Rafsanjani, ni même à Moussavi et encore moins à Khamenei. Donc je pense que ce scénario est également envisageable, ce qui également est très en rapport avec la place de l'Iran dans la région, puisqu'effectivement un pays en proie à une crise profonde, un pays comme l'Iran qui est quand même minoritaire dans la région à la fois religieusement, à la fois ethniquement parlant, est très au détriment des intérêts nationaux du pays, et je pense que un certain nombre de dirigeants l'ont très bien compris. Donc il me semble qu'on va vers un apaisement et tout le monde a compris que la violence était au détriment du pays, tout simplement.
Beaucoup regardent ce qui se passe en Iran ou ce qui se vit là-bas et finalement le premier mouvement démocratique de masse au Moyen-Orient. Voyons un peu la position des uns et des autres régionalement sur ce qui se passe en Iran. Il y a de l'inquiétude, pas mal, beaucoup, chez ceux qui craignent finalement un développement démocratique poussé chez leurs voisins. Ardavan Amiraslani.
En fait, les voisins de l'Iran, si vous voulez, seront toujours mal à l'aise, peu importe qui est au pouvoir en Iran. À l'époque impériale, ils étaient mal à l'aise face à un régime pro-américain soutenu par les États-Unis, particulièrement nationaliste et persanophile. Aujourd'hui, ils sont inquiets avec une république islamique hégémonique, expansionniste, qui essaye d'attiser les différences religieuses dans la région. L'Iran aspire, et n'a jamais cessé d'aspirer, à un rôle de superpuissance régionale que ce pays a été et inéluctablement sera. Si vous regardez l'échiquier régional, tous les voisins de l'Iran ont d'une manière ou d'une autre à subir ou à réagir par rapport aux faits et gestes de l'Iran. La question irakienne, on n'en parle plus, mais la question irakienne est une question iranienne. Tout le gouvernement irakien a vécu en Iran pendant 20 ans à l'époque de Saddam. L'Afghanistan, avec le retrait de la candidature de M. Abdullah, Hazara, chiite, tadjik, persanophone, il n'y a pas de solution afghane sans l'intervention de l'Iran. Si vous regardez aujourd'hui le Yémen, on en parle beaucoup en ce moment-là, la révolte des Al-Houthi, qui sont des zéidites, donc des chiites, qui divergent quelque peu avec les chiites iraniens, soutenus par les Iraniens, la péninsule arabique, si vous voulez, qui se trouve secouée, l'Arabie saoudite qui utilise pour la première fois son aviation pour bombarder son propre territoire et le nord du Yémen, la Syrie qui bouge dans tous les sens afin de réintégrer l'Iran dans la communauté internationale et d'aboutir à une forme de modus vivendi. L'Iran est la clé de voûte et la solution de tous les conflits du Moyen-Orient. Sans parler même, si vous voulez, de la question israélo-palestinienne, qui a été kidnappé par le régime iranien à travers sa relation avec le Hamas. Il n'y a pas une question au Moyen-Orient qui ne saurait trouver une solution heureuse sans le soutien de l'Iran. Ce qui va changer par contre, c'est que si l'Iran de demain perd son côté islamique, ce côté islamique risque d'être remplacé par un côté particulièrement nationaliste, aguerri, perse, ce qui n'est pas non plus de nature à arranger les choses dans la région quant aux volontés hégémoniques de l'Iran.
Alors, quand vous parlez de malaise des pays de la région, Ardavan Miraslani, qu'est-ce qu'il faut lire et entendre derrière ce mot? De la crainte, de la peur, de l'agacement?
La crainte, la peur et l'agacement. J'ai coutume de dire que les chiites sont peut-être minoritaires dans l'islam, mais ils sont majoritaires sur les gisements miniers d'hydrocarbures. L'Iran, les chiites sont majoritaires. L'Irak, les chiites sont majoritaires. Le Koweït, ils sont à 50-50. Si vous regardez l'Arabie Saoudite, les gisements saoudiens, qui sont tous situés sur le golfe Persique, sont dans une région où il y a 80% de chiites. Il en va de même aux Émirats Arabes Unis, où il y a une minorité chiite très importante. Donc l'Iran a retrouvé son rôle de parrain de la communauté chiite, ce qui met mal à l'aise toutes les pétromonarchies du Golfe qui sont inquiets pour leur avenir. Puisque les gens pensent, ces chefs d'État pensent, qu'après la chute de l'Irak, qui était, si vous voulez, le berceau de la civilisation arabe avec la dynastie abbasside, c'était le porteur d'étendard de la cause arabe, d'autres maillons vont tomber. Le prochain, dans l'esprit de beaucoup de gens, ce sera le Bahreïn, où il y a une lutte qui oppose, si vous voulez, l'élite sunnite de la famille Al-Khalifa à une majorité chiite et persanophone. Ça risque d'avoir des effets conséquents dans toute la région. On parle notamment de la division de la péninsule arabique avec l'arrivée d'un nouvel État chiistan entre le Yémen et l'Arabie Saoudite, voire même la division du Yémen de nouveau comme dans les années 60 entre Sanaa et Aden, sans parler du rôle de l'Iran dans la Corne de l'Afrique. Aujourd'hui, l'Iran est le principal soutien de l'Érythrée. C'est d'ailleurs au départ de l'Érythrée que l'armement, le soutien logistique iranien va vers le nord du Yémen, ce qui pose problème. Oui, regarde la présence française à Djibouti. L'Iran est vraiment soit partie du problème, soit partie de la solution. Mais en tout cas, une donne importante.
D'où tous ces silences des pays arabes, finalement, François Géré, sur ce qui se passe en Iran, que ce soit à propos du nucléaire ou à propos du mouvement démocratique qui a cours depuis 6 mois.
Dans ce que vient de dire Maître Aslani, je crois qu'il y a une donnée effectivement très très importante, c'est que à partir de 2001, puis ensuite en 2003, les États-Unis ont fait toute une série de cadeaux géopolitiques de grande dimension à l'Iran. Ils ont détruit le régime des talibans, qui était un des ennemis jurés de Téhéran. Ils ont évidemment détruit le régime de Saddam Hussein, qui était le facteur d'équilibre majeur dans la région. Donc ils ont littéralement détruit ces équilibres traditionnels, ces rapports de force traditionnels. Ils ont permis évidemment aux Iraniens de jouer de la majorité chiite, même si elle n'est pas totalement alignée sur Téhéran, on est bien d'accord, etc. Mais enfin, les liens sont ce qu'ils sont. J'ajouterais même un dernier facteur dans ce qui s'est passé en Irak. On a vu le Kurdistan se transformer en région autonome. Or, ça constitue un élément de rassemblement entre la Turquie, l'Iran et la Syrie, qui sont au moins d'accord sur une chose, c'est qu'il ne faut en aucun cas que les Kurdes accèdent à une indépendance totale. Donc ça aboutit, à mon avis, à une difficulté majeure pour deux pays, l'Arabie Saoudite, comme vous venez de le dire fort justement. Il y a un autre pays à qui ça pose un énorme problème, c'est l'Égypte. L'Égypte, traditionnellement, a toujours regardé avec énormément de méfiance le rôle hégémonique potentiel de l'Iran. Ça nous renvoie évidemment à la préoccupation égyptienne concernant le nucléaire iranien. Et ce qui redouble la difficulté, c'est que dans ces deux pays, que ce soit l'Égypte, que ce soit l'Arabie Saoudite, nous avons aujourd'hui un problème de succession. Et beaucoup d'incertitudes dans ces deux pays qui restent violemment travaillés par l'islamisme radical, sur la manière dont cette succession va être résolue. Est-ce qu'elle va l'être véritablement pacifiquement? Est-ce qu'elle va l'être par une intensification de la dictature qui évidemment ferait mauvais genre dans la perspective de la démocratisation de la région et en particulier de ces pays? Donc oui, l'Iran est totalement incontournable. Si on veut avoir une solution une solution politique en Afghanistan, il faudra que les Iraniens soient partie prenante. Si on veut que l'Irak soit durablement stabilisé, l'Iran est partie prenante, etc., etc.
J'aimerais développer un petit peu cette relation paradoxale entre les États-Unis et l'Iran, où que ce soit Ardavan, Amir Aslani ou François Géré, vous avez mis en avant tous ces cadeaux faits par Washington à l'Iran.
Cadeaux involontaires.
Des cadeaux involontaires. Et aujourd'hui, ou depuis la révolution iranienne, depuis 30 ans, pas de relation entre Washington et Téhéran. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui avec l'arrivée d'Obama au pouvoir il y a un an à Zadikian?
Écoutez, je pense que l'arrivée au pouvoir de président Obama a changé beaucoup de choses en Iran comme dans la région. Ça a d'une part rapproché, je pense, des populations aux États-Unis, des populations de la région, notamment des Iraniens, mais pas que les Iraniens, puisque Obama, contrairement à Bush, a un discours qui tente de réconcilier les musulmans dans leur ensemble, et notamment pour ce qui concerne cette région de Moyen-Orient, avec les États-Unis. Il ne faut pas oublier quand même son discours du Caire, qui est un discours très important. Et pour ce qui concerne l'Iran, à l'occasion du nouvel an iranien au mois de mars dernier, Obama a envoyé un message à la fois aux dirigeants iraniens et au peuple iranien et en persan. Donc ça a extrêmement plu en Iran. Et cette politique aussi d'Obama d'éviter des tensions inutiles avec les dirigeants iraniens et avec donc, le régime iranien a paradoxalement donné des résultats dont on voit en partie actuellement en Iran. C'est-à-dire qu'il y a ce mouvement, mais les dirigeants iraniens ont maintenant énormément de mal à accuser les États-Unis d'avoir fomenté ce mouvement. Même si les radicaux continuent à vouloir le faire, ils sont plus pris au sérieux, étant donné que la politique d'Obama, c'était la non-ingérence, c'était la poursuite des négociations avec les Iraniens directement, quelque chose qui d'ailleurs a commencé. Pour le moment, il y a une suspension, si vous voulez, mais aussi dans la politique d'Obama, on constate une volonté de résoudre les problèmes avec l'Iran, puisque cette administration a bien compris que, comme ça a été dit, la crise en Afghanistan, en Irak, et aussi entre les Palestiniens et les Israéliens, ne peuvent, en tout cas au moins ces trois-là, ne peuvent pas être résolus sans la contribution positive de l'Iran. Et donc effectivement, l'Iran devient un acteur indispensable aux yeux des Américains. On voit par exemple que sur le dossier de nucléaire, il y a une attitude aussi là beaucoup plus constructive de la part des Américains que sous l'administration Bush.
On va en parler du nucléaire. Zadikian, j'ai juste une question. Est-ce que ce mouvement démocratique en Iran n'aurait pas pu se passer si Obama n'avait pas été en place à Washington?
Moi, je pense que c'est indépendamment de la personne qui se trouve sur poste à Washington. Mais ce qui est, c'est que les Iraniens ont finalement aussi profité de cette main tendue de Obama aux dirigeants iraniens. Et c'est ça qui leur a aussi permis de montrer, si vous voulez, leur volonté pour une démocratisation du régime d'une part et pour la réinsertion de l'Iran au sein de la communauté internationale de l'autre, puisque Bush n'a pas permis ceci à l'Iran. Ne l'oublions pas que sous Khatami en 2002 et après l'invasion américaine en Afghanistan, le gouvernement Khatami avait tout fait pour préparer cette réintégration de l'Iran au sein de la communauté internationale. Mais malheureusement pour lui et pour les Iraniens, à l'époque, il y avait Bush qui était au pouvoir et qui a placé l'Iran dans les pays de l'axe du mal. Et ce que Obama ne fait pas, et donc ça permet aux dirigeants plus consensuels, je pense, de l'Iran également, de voir une possibilité de réconciliation à long terme ou à moyen terme plutôt avec les États-Unis et donc la réinsertion de l'Iran à la communauté internationale. Mais ce que je veux dire, c'est que les radicaux du régime iranien ont commis également des erreurs et sont en train de commettre des erreurs justement en trop se focalisant sur les chiites de la région, parce que si la religion est l'un des éléments importants à prendre en compte, ça n'est pas le seul élément. On ne vient pas prendre la partie de l'Iran pour l'Iran, par exemple, si on est saoudien ou bahreïni ou irakien seulement parce qu'on est chiite, parce qu'il y a aussi l'élément national qui est de plus en plus important dans la région et dans le monde, qu'il faut prendre en compte, que les dirigeants iraniens actuels visiblement n'ont pas pris en compte. Et juste un autre mot, Ahmadinejad, ne l'oublions pas, était très populaire dans ce qu'on appelle communément la rue arabe, notamment après 2006, après l'invasion israélienne du sud Liban. Mais ce qu'on a pu voir et constater, c'est qu'après après la répression des manifestants et du mouvement post-électoral, aujourd'hui, Ahmadinejad a beaucoup perdu de sa popularité dans les pays arabes avoisinants.
Alors, cette popularité, elle s'inscrivait aussi dans l'opposition d'Ahmadinejad aux États-Unis, cette popularité dans les rues arabes. En dernière partie de cette émission, j'aimerais qu'on aborde l'élément nucléaire, les sanctions dirigées contre l'Iran. Il y a au jour d'aujourd'hui, entre la France et les États-Unis, une attitude très différente, une position très différente vis-à-vis de Téhéran. Est-ce qu'il faut reconsidérer les sanctions? Est-ce qu'il faut les annuler, les geler à leur niveau actuel? François Géré.
J'ai une position un petit peu radicale sur la question. C'est que, ayant discuté avec tous les opposants possibles et imaginables iraniens sur la question des sanctions, j'en ai rencontré aucun qui dise « Nous trouvons que les sanctions à l'égard de notre pays, c'est une bonne diplomatie ». Donc, les Iraniens aujourd'hui sont en situation de crise, un processus extrêmement fragile où on peut espérer que les choses vont se résoudre pacifiquement, mais où il y a quand même un risque très très grave d'une répression violente et d'une espèce de coup d'état ouvert, hein, disons les choses comme elles sont. Dans une situation de ce genre, moins il y aura de sanctions, plus le peuple iranien sera libre de choisir son destin. Et moins il y aura d'arguments donnés aux uns, et notamment aux plus radicaux, pour dire que vous voyez bien, la main de l'étranger pèse sur notre pays. Il faut, je crois, se rendre compte que ce qui m'avait frappé quand j'étais sur place, c'est que la campagne de Mousavi était très nationaliste, hein, très nationaliste. Et que le nationalisme iranien avait, en quelque sorte, basculé du côté des Mousavi, du côté des Ratami, du côté des jeunes, mais des jeunes qui revendiquaient un nouvel Iran. Bon. Les Pasdaran, d'une certaine façon, et certains ayatollahs radicaux ont perdu, si vous voulez, une partie de ce capital national, voire nationaliste. Aujourd'hui, tout ce qui pourrait leur permettre de se revendiquer à nouveau comme les représentants du nationalisme persan, ça serait leur donner des cartes. Il faut éviter de les leur donner. Je crois qu'aujourd'hui, les Américains sont très 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 prudents sur l'idée d'aggraver les sanctions, parce qu'ils sentent bien que ça serait envoyer peut-être un mauvais signal.
Alors, comment lire, Ardavan Miraslani, la position de la France dans cette attitude vis-à-vis de l'Iran ?
Je suis de ceux qui sont, madame, particulièrement critiques quant à la position de la France sur l'Iran. La France a tendance à prendre la question iranienne trop à cœur à titre personnel. Un comportement, si vous voulez, qui, dans la diplomatie internationale, on a du mal à comprendre.
On peut rappeler juste la porte ouverte par la France à l'Ayatollah Khomeini.
L'accueil en France des chefs de l'opposition, etc.
Et il y a l'affaire Clotilde Reims.
Bien sûr. Mais globalement, si vous voulez, quand vous regardez ce qu'on appelle communément le groupe de 5 plus 1, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, plus l'Allemagne, le pays qui a l'attitude la plus hostile vis-à-vis de l'Iran, c'est la France. Beaucoup d'intervenants à l'échelle internationale ont du mal à le comprendre. Si vous voulez regarder l'Amérique, on crie en Iran, on criait plutôt avant, puisque maintenant on crie mort à la Chine et à la Russie, avant on criait mort à l'Amérique, principalement. L'Amérique a une attitude beaucoup plus constructive, beaucoup plus tolérante, beaucoup plus neutre vis-à-vis de l'Iran qu'est la France. Alors que l'Amérique a les moyens d'une intervention, chose que la France n'a pas. Je crois qu'aujourd'hui, la France est en train de perdre un rôle important en tant que honest broker que ce pays, qui est très cher dans le cœur des Iraniens, aurait pu jouer. Et de la sorte, se mettre totalement au banc et en dehors des négociations que les Iraniens mènent aujourd'hui en direct avec les États-Unis. Si vous regardez en marge des négociations sur la question nucléaire iranienne et le groupe de 5 plus 1, il y a eu des réunions en aparté entre les Iraniens et les Américains. Chose qui, si vous voulez, est insupportable pour la France et insupportable pour l'Union européenne. Or, la France, par cette attitude particulièrement belliqueuse qu'elle adopte à l'égard de l'Iran, a fustigé les positions des uns et des autres et a mis, de la sorte, l'Union européenne en dehors et a mis l'Iran directement en relation avec les Américains. Si vous regardez globalement, pour faire placer un mot par rapport à ce qui m'a été dit par le professeur Géré sur la question des sanctions, les sanctions efficaces ou pas efficaces, la question est ouverte, il y a un débat, ça fait 30 ans que l'Iran est sous embargo international, ça n'a pas empêché le pays de placer une satellite en orbite, devenir ainsi la neuvième puissance spatiale au monde. La Chine, aujourd'hui, et la Russie, qui siègent au Conseil de sécurité de l'ONU, qui chacun ont le droit de vote, vont suivre une proposition française, même pas américaine aujourd'hui, d'augmenter, d'aggraver les sanctions. La dépendance énergétique de l'Iran, chose étonnante, vis-à-vis notamment du pétrole raffiné, de l'essence, est telle que c'est la seule sanction efficace porterait sur cette question-là. Or, les Chinois viennent de régulariser un contrat avec les Iraniens, où les Chinois se sont engagés à fournir tous les besoins de l'Iran directement, ce qui de facto rend inutile une mise en œuvre des sanctions qui ne feront en fait que nuire au bien-être des Iraniens déjà très mal en point après 30 années d'exclusion.
Donc on est à contre-courant de ce qu'il faudrait faire plutôt que de les...
François, deux mots là-dessus. C'est terriblement juste ce qui vient d'être dit. Terriblement juste parce que aujourd'hui on entend, enfin aujourd'hui depuis des mois, on entend, mais pourquoi la France continue à conduire la diplomatie de George W. Bush ? C'est d'autant plus embêtant qu'il faudra encore en avoir les moyens. Sur la question des sanctions et sur la question de la Chine, c'est tout à fait exact. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va sanctionner la Chine parce qu'elle vend de l'essence à l'Iran en dépit des sanctions. Tout ça tourne aujourd'hui à l'absurde et devient effectivement contre-productif, à commencer par, effectivement, le rôle de la France dans la région, son image de marque. Et ça, il serait temps, je crois, de le comprendre.
Azadekian.
D'autant que la principale raison, dit-on, de ces sanctions ou davantage de sanctions, c'est autour du dossier nucléaire iranien. Or, selon les derniers rapports qu'on peut lire, personne ne donne une capacité nucléaire militaire à l'Iran aujourd'hui. Donc, c'est une raison de plus de se poser la question de savoir à quoi servent ces sanctions qui, jusque-là, ont été très contre-productives, ça on le sait, puisque ces sanctions internationales ont été au détriment de la population iranienne, au détriment des entrepreneurs iraniens, ont provoqué quand même des dizaines de milliers de chômeurs, y compris dans les champs, d'ailleurs gaziers et pétroliers de par ce sud, du fait du retrait d'un certain nombre d'investisseurs occidentaux. Et donc, ça n'a pas abouti à la fragilisation du régime non plus. D'autant qu'encore une fois, il n'est pas sérieux de dire que l'Iran a à l'heure actuelle une capacité de produire de l'armement nucléaire. Donc, ne faut-il pas plutôt prendre toutes ces données en compte et au lieu de décréter des sanctions qui seront au détriment de ces mêmes gens, de ces mêmes Iraniens qu'on prétend soutenir, d'aller vers une position beaucoup plus constructive à travers des négociations, etc. C'est-à-dire, en gros, la position prise par l'administration Obama.
Et alors, que pensez-vous, très rapidement, de ces sanctions davantage ciblées, qui n'atteindraient plus donc la population iranienne, mais qui seraient dirigées contre les gardiens de la Révolution, les Pasdaran, qui, justement, sont de grands affairistes? Alors là, sanctions financières.
Ça existe d'ores et déjà. N'oublions pas que nous sommes... S'il y aura de nouvelles sanctions, on va arriver au troisième tour des sanctions. Dernièrement, on a appris que tel gratte-ciel à New York avait été saisi par les autorités américaines sous prétexte qu'elle appartenait à tel groupe financier soutenu ou armé économiquement par les Pasdaran. Il y a la Suisse qui a été saisie sur le blocage des comptes bancaires de telle ou telle société iranienne ou individu de la haute diplomatie iranienne. Mais globalement, si vous voulez, dans la pratique, il y a eu peu d'effets. Ça ne marche pas. J'aimerais juste, si vous me permettez, revenir en plaçant une phrase sur la politique de la France dans la région. J'ai expliqué qu'à quel point cette politique-là, à mon sens, était dangereuse parce que ça mettait la France hors du coup diplomatique avec l'Iran. Mais ça a également des conséquences. On en a vu tout à l'heure à propos du rôle de l'Iran dans la région. Les Émirats Arabes Unis, le Koweït, l'Irak, qui que ce soit sur place, resteront toujours les voisins de l'Iran. Elles ne pourront pas se permettre d'ouvertement de provoquer le régime iranien et l'Iran, islamique ou pas, en effectuant des choix, si vous voulez, qui seraient perçus par les Iraniens comme étant un acte d'agression. Si on regarde dernièrement la perte d'opportunité de la centrale nucléaire aux Émirats Arabes Unis par la France, pourquoi on l'a perdue ? Avec une offre particulièrement compétitive. Alors on dit que ce n'est pas les Américains qui l'ont gagnée, c'est pas vrai. C'est un consortium de la Corée du Sud dont l'élément majeur, c'est Westinghouse, une société américaine qui l'a gagnée. Pourquoi on n'arrive pas à vendre des rafales aux Émirats Arabes Unis au Qatar ? Parce que c'est mal perçu par l'Iran. Et ces pays-là ne veulent pas, si vous voulez, exciter les Iraniens en effectuant des choix qui, par les Iraniens, seront perçus comme étant une agression. Ils choisissent américain, ça veut dire plus neutre. Les Iraniens, aujourd'hui, s'opposent moins à une présence économique ou militaire américaine qu'à une présence française. Et ça continue.
Donc l'Iran, point de passage obligé pour faire des affaires dans la région, François Géré, ouais, extrêmement
plus,
rapidement.
Plus neutre, oui, mais quand même nettement plus puissant, malgré tout.
C'est la fin de Géopolitique, le débat. Merci à nos invités. Azadeh Kian, professeur de sociologie politique à l'Université Paris-Diderot, Paris 7, chercheur au CNRS et auteur de La République islamique d'Iran aux éditions Michelon. Ardavan Amir Aslani, avocat et auteur de Iran, le retour de la Perse aux éditions Jean Picolec. Et François Géré, directeur de l'Institut français d'analyse stratégique et auteur de Iran, l'état de crise aux éditions Cartala, ligne de repère à paraître le 25 janvier. Géopolitique qui était signé Marie-France Chatin. Merci à Bétanadji, à la documentation de RFI, à Nathalie Laporte pour la réalisation, à Enguerrand de Sade pour la technique. La semaine prochaine, Géopolitique sera consacrée à la péninsule coréenne. À très bientôt.